Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute l'équipe, Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, Alexandre Cagzan qui est aux manettes techniques de cette émission. Et à la une, 13 affaires, on dirait encore le chiffre 13, 13 affaires criminelles du Nord-Pas-de-Calais. C'est en fait une récidive de nos confrères de la Voix du Nord qui viennent de publier, qui publient aujourd'hui même le 7e tome, le 7e hors-série consacré à ces affaires criminelles qui ont profondément marqué la région Nord-Pas-de-Calais. Certaines sont très anciennes, hein, puisque là on va parler d'une affaire de la guerre de 14, mais d'autres affaires sont beaucoup plus proches que nous. Et pour en parler, deux des journalistes de la Voix du Nord qui ont largement contribué à l'élaboration de ce hors-série, Marie Van de Kerkhove, bonjour.
Bonjour Jacques.
Et à côté de vous, Marie Goodson, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Et on pourrait peut-être, Marie Van de Kerkhove, tout de suite redire que ces hors-séries qui en fait ont attiré notre attention dès le début, ont une originalité et évidemment vous êtes toujours fidèle à cette philosophie de traitement des affaires criminelles.
Voilà, notre ligne éditoriale en fait, c'est de reparler de grands faits divers qui ont marqué la région, mais surtout de retourner sur place pour à nouveau donner la parole à des témoins, à des parents de victimes ou d'assassins, de voir les répercussions que peut encore avoir un fait divers aujourd'hui dans notre région Nord-Pas-de-Calais.
Voilà, alors évidemment dans les affaires, on va pas parler des 13 affaires, on en a sélectionné un certain nombre ensemble. Tout à l'heure, d'ailleurs, on entendra des documents RTL sur certaines de ces affaires. Mais d'abord, on va commencer par, c'est vrai que c'est, on célèbre les 100 ans de la guerre de 14. Et le Nord-Pas-de-Calais, il faut bien le dire, a largement contribué, hein, malheureusement, aux très très nombreuses victimes de cette guerre. Mais là, c'est une histoire particulière que vous racontez. On espère, elle est totalement oubliée, on espère qu'elle ne s'est pas reproduite à trop d'exemplaires à l'époque. Alors, vous allez nous présenter la famille Moreau. Je voudrais juste dire, avant de vous laisser entrer dans le détail de l'histoire, que on est en novembre 1914. Il y a évidemment une des activités principales du Nord, c'est la mine, les mines de charbon. Et il y a une famille de mineurs, les Moreau, qui vont basculer dans une horreur absolument imprévue. On va les accuser d'être des espions à la solde des Allemands. Et tout ça à cause d'un cadeau fait à cette famille par un soldat français.
Alors voilà, vous l'avez dit, les Allemands sont aux portes des Houillères, on est dans le Pas-de-Calais, à Grenay, ils sont vraiment à 150 mètres de la maison des Moreau. Et en fait, il faut éviter absolument que les Allemands aient la main mise sur les mines. Et donc je pense qu'il faut faire des exemples, c'est un peu ça. La famille Moreau, c'est une famille qui malheureusement a servi d'exemple pour lutter contre l'espionnage.
Ouais. Alors, évidemment, il y a une espionnite aiguë, hein, on voit des espions partout, mais en fait, la raison pour laquelle la police militaire française va débarquer un jour chez ces malheureux, c'est que, vous venez de parler de ces batteries allemandes qui sont tout près, elles sont d'une efficacité terrible, tellement efficace que les Français se disent, il y a des espions qui leur donne les coordonnées des endroits qui sont bombardés. Et c'est à partir de là qu'ils cherchent des espions.
Voilà, les tirs sont trop précis. Il faut absolument trouver la personne qui renseigne les Allemands. Et donc, une voisine des Moreau aperçoit des lueurs à la fenêtre, des lueurs un peu bizarres. Ça s'allume par intermittence. Donc, elle prévient la police militaire qui en déduit que ce sont en fait des signaux en morse. Et que ces personnes font des signaux aux Allemands. Ouais. Donc ils débarquent à la nuit tombée chez ces gens-là en disant, en cherchant une lampe justement, mm-hmm. qu'ils vont finir par trouver.
Eh oui, même si elle n'a pas servi, hein, disons-le. Alors, c'est un cadeau d'un militaire français.
Alors voilà, parce que cette famille très très gentiment accueille les soldats français qui sont près du front, et un soldat français fait un cadeau à un fils de la famille. Hein, ils sont jeunes, les enfants, ils sont déjà mineurs, mais ils ont 19-20 ans. Oui. Les deux fils, le fils aîné est au front, et donc le soldat français, en remerciement de l'hébergement, va offrir cette fameuse lampe qu'il a trouvée sur un soldat allemand.
Voilà. À côté d'un vélo, du cadavre d'un soldat allemand et d'un vélo. Donc cette lampe, eh ben, elle est de marque allemande. Alors voilà, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et eux ont beau dire... D'abord, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Hein. C'est quoi un signaux?
Alors, pour leur malheur,
la phrase.
Hein, oui, pour leur malheur, effectivement, les Moreaux ne comprennent pas ce qu'on leur reproche, parce que c'est d'humbles mineurs, des gens honnêtes, mais qui ne parlent pas le français, qui parlent très mal le français, qui parlent patois. Mm-hmm. En fait, ils s'aiment en patois. C'est une famille très unie. Ouais. Et quand la police militaire débarque, vous faites des signaux aux Allemands, la mère de famille dit mais c'est quoi un signaux? En fait, elle ne comprend pas le mot en français.
Voilà. Alors eux, par contre, les militaires français, ayant trouvé en fait l'objet du délit, ne vont pas voir plus loin, et on va embarquer toute cette famille. Alors quand même, une explication, la personne qui les a dénoncés est une... elle a un commerce, je crois...
C'est une épicière, oui.
Une épicière, et les flashs par intermittence qu'elle voit, il y a une explication.
Alors, il y a une explication toute simple, c'est que les Moreaux s'éclairent à la bougie, et à chaque fois qu'un membre de la famille passe, ils sont quand même sept à vivre là, ben en fait, ça crée des halos de lumière, enfin des lumières qui s'allument par intermittence, ça donne l'impression qu'il y a des signaux et du morse qui est fait, alors que non.
Ouais. Alors c'est cette méprise tragique qui va envoyer deux des fils de la famille plus le père au bagne de Cayenne, vous allez nous raconter. La mère, il y a une gamine de 14 ans aussi, et la maman, tous ces gens vont être accusés d'espionnage et donc traduits devant les tribunaux.
Alors toute la famille est arrêtée ce fameux 18 novembre 1914, tout le monde est conduit est éparpillé dans des prisons, et un procès a finalement lieu le 10 décembre, parce que faut savoir quand même qu'au départ la famille Moreau ne sait pas de quoi elle est accusée, ils n'ont vraiment pas compris ce qu'on leur reprochait. D'autant qu'ils ne savent ni lire, ni écrire. On leur reproche de faire du morse. Ils ne connaissent pas le morse. Ouais. Alors, outre le fait que cette fameuse lampe n'est jamais servie, puisque la mèche est neuve, et ils n'ont de toute façon pas les moyens d'acheter du pétrole, parce que cette lampe est une lampe à pétrole, et en fait, c'est seulement au moment de leur procès, donc le 10 décembre, qu'ils vont comprendre ce qu'on leur reproche, et que là, ils vont tenter de se rebeller. Et du coup, vont être condamnés beaucoup plus lourdement. Et tout ça, encore une fois, sans preuve.
Ouais.
Donc la maman, elle est condamnée à mort, Adèle, parce qu'elle s'est rebellée. On pense qu'elle fait du chiquet, qu'elle ne sait pas ce qu'est un signal, un signal en l'occurrence.
Ouais.
Le père et l'un des fils sont condamnés au bagne pendant 5 ans.
Ouais, ils portent le même prénom.
Alors Louis-père et Louis-fils. Ouais. Et le fils Arthur, lui, est condamné à 10 ans de bagne parce qu'il a osé traiter ses juges de menteurs.
Mmh. Et donc 1915, ceux dont vous venez de parler vont être condamnés à partir pour le bagne de Cayenne. La maman, elle, on peut dire qu'elle va mourir de chagrin en 1919. Un mot rapide sur ce que devient la gamine de 14 ans. Elle est responsable de rien et elle est même innocentée. Elle n'est pas accusée d'espionnage, elle. Hein.
Alors Georgette, elle a 14 ans forcément, donc elle peut pas être accusée d'espionnage. Elle non plus ne sait ni lire ni écrire, mais on la place chez des religieux en maison de correction, sans aucun procès. Mmh. Et en fait, elle va passer sa vie, enfin jusqu'à sa majorité, à 21 ans, chez ses religieuses. Et elle confiera plus tard à sa famille, j'étais traitée pire que les prostituées et les voleuses, parce que j'étais d'une famille de traîtres à la nation.
Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle est beaucoup plus terrible qu'on ne peut l'imaginer, malheureusement. On va faire une première pause dans l'émission, et avec Marie van de Kerkhove, après on va prendre quelques instants pour vous raconter la suite de l'histoire, parce que ça a été un feuilleton terrible, judiciaire évidemment, mais avant d'être un feuilleton judiciaire, il y a deux hommes qui sont partis au bagne, il y a un des deux fils qui va mourir, le père va mourir là-bas à Cayenne, enfin c'est quelque chose de terrible, et puis quand même un jour c'est toute cette famille va être réhabilitée, on va vous expliquer dans quelles circonstances.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et aujourd'hui, à l'heure du crime, on salue la parution d'un hors-série consacré aux affaires criminelles du Nord-Pas-de-Calais par nos confrères de La Voix du Nord. On est avec Marie Van de Kerkhove et Marie Goodzen, qui sont deux des journalistes qui ont élaboré avec leurs confrères, avec d'autres évidemment, ce hors-série qui présente 13 affaires criminelles, avec ce principe qu'on a rappelé tout à l'heure, raconter l'histoire, mais aller sur place, voir en fait s'il y a une empreinte encore, un impact sur les lieux du crime, quelquefois dit 10, 15, 20, 30, 50 ans après les faits, retrouver des témoins quand ils existent, ou simplement interroger des gens qui en ont entendu parler, parce que même si un certain nombre de ces affaires n'ont pas eu d'écho, j'allais dire au plan national, elles ont ces affaires pour certaines très très profondément imprégné la région. Alors, on va reprendre dans un instant cette incroyable histoire de la guerre de 14 avec toute cette famille de mineurs qui est accusée d'espionnage alors que comprennent même pas que ça peut être que l'espionnage, et pour aller faire des signaux en morse encore faudrait-il avoir le certificat d'études, ils l'ont pas. Dans un petit instant avec Marie Goodzen, on va évoquer alors un fait divers qui est beaucoup plus proche de nous puisque ça c'est 2007, c'est une énigme incroyable. 4 pendus de la même famille, dans la même maison, avec un immense point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui encore, on n'a pas compris ce qui avait déterminé ces gens, le père, la mère et les enfants, à se tuer. Et puis après, on verra d'autres affaires dont on a beaucoup parlé dans le Nord, et notamment le meurtre d'une femme médecin qui est tombée dans un véritable piège, appelée par quelqu'un pour faire une visite. Et en fait, on en voulait à son argent et elle en est morte. Et puis, on retournera dans une autre guerre qui est la guerre de 39-45, parce que à l'issue de cette guerre, en 1945, il y a une histoire incroyable qui s'est déroulée autour d'un personnage mystérieux, une sorte de comtesse franco-russe qui a été retrouvée, dont le cadavre a été retrouvé sous un tas de sable, dans une petite ville du Nord, sur un trottoir, sous un tas de sable. C'est incroyable. Et là, c'est vraiment un récit qui prend des allures de roman d'espionnage. Mais d'abord, Marie Van de Kerkhove, la condamnation, la mère de famille qui va mourir en 19, la petite jeune fille de 14 ans qui est envoyée dans des familles d'accueil et chez des bonnes sœurs. Et puis, deux membres de la famille qui partent en Guyane, Louis et Louis, hein, le père et fils, et que devient l'autre fils, lui ?
Alors Arthur partira aussi en Guyane, mais lui beaucoup plus longtemps, puisqu'elle a été condamnée à 10 ans, alors que son père et son frère ont, eux, été condamnés à 5 ans uniquement.
D'accord. Alors, eux, en fait, quand ils arrivent, et ça que j'ai pas compris en lisant votre article, c'est quand ils arrivent, l'administration pénitentiaire leur dit « on sait que vous êtes innocent ».
Voilà, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est que leur innocence crève les yeux. Ils ne savent pas lire ni écrire, on ne peut pas voir ces fameux signaux en morse depuis les lignes ennemies, mais tout ça sont des éléments que les juges ils n'ont pas du tout pris en compte, ils en disposent déjà, et en fait ces personnes tout le village se mobilise déjà pour eux, parce qu'ils sont très favorablement connus, donc tous les mineurs de Grenay se mobilisent, rien n'y fait, on sait qu'ils sont innocents. Mais comme il faut faire un exemple, on dira attendez l'armistice.
Voilà. Alors ils vont attendre l'armistice à Saint-Laurent-du-Maroni dans des circonstances qu'on connaît, avec les récits de tous les anciens bagnards, c'est-à-dire c'est terrible. Alors ils vont quand même à un moment, mais il faudra attendre pour ça, je crois. 1935 être réhabilité, mais ils vont être libérés en Guyane. Il y a déjà une première étape vers la réhabilitation.
Alors, Louis, père et fils, en fait, sont incarcérés ensemble. Eux vont faire tout leur temps. Ils vont faire les 5 ans pour lesquels ils ont été condamnés. Ouais. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on était condamné au bagne, on doublait la peine par une relégation. C'est-à-dire que si on était condamné à 5 ans, on devait rester 5 ans en Guyane avant de pouvoir repartir en métropole.
D'accord, double peine, quoi.
Double peine. Donc, eux sortent normalement, j'allais dire, en 1920. Et donc, Louis-fils va trouver un petit boulot de cantonnier, une petite masure qui accueille son père et qui l'accueille lui et son père. Et il va essayer de mettre de côté parce que forcément le voyage retour est à leurs frais.
Bien sûr.
Et en fait, son père, qui a très mal vécu la mort de sa femme, on le comprend. Il est rongé par l'anémie parce que les conditions, vous l'avez dit, sont terribles à l'époque. On mange pas à sa faim. Climat est tropical et terrible.
Il travaille sous le soleil tropical, à caisser des cailloux au bord des routes, à couper des arbres dans la forêt. Enfin, voilà. Quoi.
Voilà.
Et il va mourir.
Donc il va mourir en 1921. Mm-hmm. Et en fait, Louis-fils continue à travailler, continue à mettre de côté, et il repart, lui aussi, normalement. Donc il a purgé toute sa peine en 1925 pour son village de Grenay.
Oui.
Et c'est là où ils ont un petit peu de chance dans leur malheur, c'est que Arthur, donc lui qui a été condamné à 10 ans, donc il a fait 10 ans de bagne, on est en 1925, en fait Arthur va être gracié, ça veut dire qu'on le dispense de sa relégation. Donc il va rejoindre son fils, son frère Louis un mois après.
Ouais.
Donc les deux frères Moreau reviennent au pays, j'allais dire, en 1925 tous les deux.
Ouais. Et il faudra attendre donc 1935 pour être réhabilité. Alors il faut dire que il y a une cour spéciale de justice qui se réunit pour cela. Cette cour de justice va décider d'indemniser chaque membre de la famille à hauteur de 25 000 francs. Bon, ça veut dire à peu près 19 000 euros d'aujourd'hui. Enfin, c'est pas cher payé pour le drame qui a décimé cette famille. Et c'est pas terminé. C'est-à-dire que les fils, évidemment, les survivants, veulent absolument donner une sépulture honorable à leur père. Ils veulent retourner en Guyane pour ça. Ils ont pas d'argent. Et là, il va y avoir un magnifique exemple de solidarité. C'est tout un village, en fait, qui va se cotiser pour les envoyer en Guyane.
Donc leur village de Grenay a toujours été derrière la famille Moreau, en fait. Et c'est vrai que dans les années, à la fin des années 60, Louis et Arthur sont des vieux monsieur, les faits remontent à 1914. Donc ils ont fait toute leur carrière à la mine, voilà, ils sont retraités. Et ils veulent se recueillir une dernière fois sur la sépulture du papa, donc Louis père. Et vous l'avez dit, n'ont pas d'argent. Et donc tout le village va, enfin, grâce au maire, va lancer une souscription pour leur permettre de retourner là-bas, donc en homme libre et en avion, et pas à fond de cale comme la première fois en 1915.
Voilà, ils vont retoucher le sol guyanais 42 ans après avoir quitté le bagne, et là la tombe du père, elle a disparu.
Alors c'est le dernier coup du sort terrible erreur judiciaire, c'est qu'ils ne retrouvent pas la tombe de leur père, et donc ils reviennent blessés, déçus, meurtris de ce pèlerinage qu'ils ont fait au bagne, qui a fermé depuis, naturellement.
Voilà. Alors je laisse à ceux qui vous écoutent en ce moment et qui vont pouvoir se procurer ce hors-série le soin d'aller voir les témoignages, puisque vous avez recueilli, évidemment, pour illustrer cette histoire, un certain nombre de témoignages. Il y a une pièce de théâtre sur l'affaire Moreau qui a été faite, qui s'appelait Louis Bagnard aussi, et dont vous racontez, évidemment, l'histoire dans votre hors-série. On fait une pause, et puis avec Marie Goodson, dans un instant, on va parler de ce fait divers terrible, beaucoup plus proche de nous, puisqu'il se déroule pendant l'année 2007.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et aujourd'hui, à la une de l'heure du crime, les grandes affaires criminelles qui ont profondément marqué la région Nord-Pas-de-Calais. On est en compagnie de Marie Van de Kerkhove et Marie Goodson, qui sont toutes deux journalistes à La Voix du Nord et qui ont contribué évidemment à ce hors-série qui est disponible à partir d'aujourd'hui. D'ailleurs, je m'adresse à ceux qui nous écoutent dans cette région du Nord-Pas-de-Calais. Si les affaires dont on parle vous ont profondément marqué, si vous avez envie d'en parler ou de nous faire part de vos réflexions ou même de vos questions, c'est le 3210, bien sûr, le standard téléphonique d'RTL pour les coups de téléphone. Et RTL.fr, d'ailleurs aujourd'hui, c'est un tout nouveau site RTL.fr que vous allez découvrir. Alors profitez-en comme ça, et vous pourrez au passage nous envoyer un courriel là pendant l'émission. Et puis si vous voulez nous proposer de prendre une affaire qui vous a particulièrement marqué à la une de l'heure du crime, vous pouvez nous le dire aussi. Laissez-vous guider, vous verrez, c'est extrêmement bien fait. On est très fiers de ce nouveau site RTL.fr. Alors, maintenant, Marie Goodson, on est en 2007. Je vais vous proposer d'écouter d'abord un document RTL. C'est notre correspondant dans le Nord que vous devez bien connaître, La Voix du Nord, Franck Hanson, qui est allé sur place et qui a raconté les circonstances de ce drame sur l'antenne d'RTL. C'était le 27 septembre 2007. À Coulogne, on trouve 4 pendus dans la même maison. Ils font tous partie de la même famille. Écoutez les explications de Franck Hanson.
C'est un membre de la famille inquiet de ne pas avoir de nouvelles qui a contacté un voisin dans la soirée. La porte de la maison de ce couple de retraités sans histoire en apparence n'était pas fermée. Intrigué, celui-ci est entré et les a donc découverts avec leurs 2 enfants âgés d'une 30aine d'années, pendus tous les 4 dans la véranda, dans l'arrière-cuisine. Dans ce petit lotissement paisible, à l'entrée de Calais, personne ne comprend, rien ne laissait imaginer ce qui ressemble fort à un suicide collectif. Les riverains parlent de gens sans histoire, aimables. Ils n'ont jamais fait part d'éventuelles difficultés personnelles. René, le chef de famille, ancien cadre dans une entreprise de produits chimiques, avait pris sa retraite il y a 1 an. Selon le maire de Coulogne, également sous le choc, il était toujours prêt à rendre service pour sa commune. Les policiers sur place une partie de la nuit dans cette allée des frênes recherchaient d'éventuelles lettres ou documents pour éclaircir ce drame. Selon les premières constatations, il n'y avait pas de traces de violence à l'intérieur du pavillon.
4 pendus partis avec leurs secrets. C'est comme cela, Marie Goodson, que vous avez intitulé votre long chapitre consacré à cette affaire. C'est où Coulogne à propos ?
C'est à 2 pas de Calais, une petite commune qui est située juste à côté de Calais.
Alors, il faut dire que ce fait divers est remarquable, au sens vraiment étymologique du terme. De mémoire de pompiers, de policiers, on n'a jamais vu ça. Les psychiatres disent que, bah non, ils n'ont jamais vu ça non plus. Et vous êtes allé, vous, sur place. Tout le monde se souvient, j'imagine, de cette histoire encore aujourd'hui.
Oui, les gens parlent. Après, c'est assez spécial, parce que quand on va sur place à Coulogne, on rencontre aussi des gens qui n'ont plus du tout envie d'en parler et qui nous disent voilà, maintenant ils ont fait ce choix de suicider à 4, laissons-les, respectons-les, respectons leur choix, et puis intéressez-vous davantage à tel crime qui s'est passé dans la commune.
Ouais, bien sûr. Mais enfin, vous avez aussi rencontré l'ancien maire du village. On va en parler dans un instant. Il faut dire qu'il y a des raisons pour lesquelles cette affaire demeure un mystère. L'hypothèse de l'homicide a été très très vite écartée, hein, je crois, par les enquêteurs, parce que on a trouvé une lettre d'adieu.
C'est ça, oui. On a trouvé une lettre qui dit, entre autres, enfin qui parle du chien qu'avait la famille, un caniche abricot âgé de 4 ans, ouais. Qui était là dans la maison quand la voisine a découvert l'un des corps. Et donc la lettre parle du devenir de ce chien, parce que la famille souhaitait le confier à l'une des belles-sœurs. Mmh. Et puis elle dit également une phrase qui a intrigué un peu tout le monde, c'est « on a trop déconné ». Pardon, on a trop déconné.
Ouais. Alors, il faut dire, le tableau de la famille, il y a René et Marie-Christine, c'est les parents. Mmh. Ils ont à peu près la 50aine, on va dire. Il y a un fils qui s'appelle Olivier, qui a 30 ans. Il y a une fille qui s'appelle Angélique, qui a 27 ans. Et on va trouver les corps de ces gens côte à côte, pendus, ouais, à une même poutre.
Côte à côte, c'est ça, pendu à la poutre de la véranda. Au départ, c'est la voisine d'en face qui est prévenue par la vieille dame qui habite juste à côté de cette famille, qui elle-même a été prévenue du coup qu'un proche de la famille n'avait plus de nouvelles. Du coup, cette voisine d'en face est allée voir ce qui se passait. Elle a vu le corps de René de Mester qui était pendu à la poutre de la véranda. Donc, elle est tout de suite repartie chez elle. Et là, son mari est revenu dans la maison en se disant peut-être que son épouse est encore vivante, prostrée à l'étage et qu'il faut lui venir en aide. Ouais. Et puis en repartant dans la maison, il a découvert qu'il y avait en fait 4 corps pendus côte à côte dans la véranda.
Ouais. Alors cette lettre demeure une énigme, parce que à quoi fait référence, on a trop déconné. Évidemment, on a interrogé, il y a 2 des membres de la famille étaient en psychothérapie, je crois, mais on a écarté un lien entre la raison de cette psychothérapie et les faits.
Ouais, le procureur, en tout cas, qui s'est exprimé toute fin de l'enquête, la Gérald Le Signe, dit que c'est un acte donc de pendaison simultanée pour lequel on ne connaît pas de raison majeure, ouais. En fait. C'est du jamais vu. C'est un acte sans réel mobile. Donc il y avait certes des signes de dépression chez le père et le fils. On sait que le fils avait une société qui avait été radiée 4 ou 5 mois avant, qui avait quelques petits soucis financiers, mais est-ce que ça suffisait à ce que 4 personnes d'une même famille passent à l'acte? C'est ça qui intrigue beaucoup.
Bien sûr. Alors, d'après ce que vous dites, d'ailleurs, moi ça m'a étonné, on a trouvé le repas du soir qui était prêt pour tout le monde, et puis ces gens ont été enterrés quasiment en catimini. Donc des gens se sont dit ça cache quelque chose, non? L'explication c'est quoi? Peut-être un secret de famille, mais quel secret de famille? Vous avez rencontré un journaliste qui s'est inspiré de cette affaire pour un roman.
C'est ça, oui. Philippe Cohen-Grillet qui a écrit le roman Haut et court, qui s'inspire librement de l'affaire, lui dit qu'il n'a pas souhaité refaire l'enquête parce que il avait l'impression qu'on ne saurait jamais de toute façon ce qui s'est vraiment passé. Donc il a décidé d'écrire un roman à partir de ça. Et c'est vrai que la famille, oui, a été enterrée un peu en catimini dans une commune voisine de Coulogne, la commune de Les Attaques. Et le prêtre lui-même dit que il y avait tellement de journalistes aussi sur place dans la commune que pour éviter qu'il y ait des débordements,
ça peut être une explication. Voilà. Ouais. Et maintenant, il y a un immense point d'interrogation. Le maire de l'époque, on en parlait. Moi, je renvoie tout le monde à son interview qui est publiée dans le corps de l'article. Il comprend pas non plus. Ils avaient vu quelques jours avant. Voilà. Donc des gens polis, réservés, qui, comme tout le monde, ont des petits problèmes dans la vie, et qui, un jour, décident de se suicider. Tous les 4, ça demeure vraiment unique dans les annales, et c'est dans ce hors-série, donc, des 13 affaires du Nord-Pas-de-Calais, qui ont particulièrement marqué, là, on le comprend, la région.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et aujourd'hui donc, nous découvrons ou nous vous rappelons un certain nombre d'histoires qui se sont déroulées dans le Nord-Pas-de-Calais à différentes époques. On a parlé de 1914 tout à l'heure, là on était en 2007. Tout à l'heure on retournera dans une période finalement assez proche également, fin des années, dans les années 90 en tout cas. Mais là, avec Marie de Van de Kerkhoff, qui signe cet article sur cette affaire dont on va parler, on est en 1945, on est à la fin de la guerre et dans une ville qui s'appelle Manières. Alors Manières, c'est entre Cambrai et Saint-Quentin. Et là, il va y avoir le 13 novembre 1945, Marie Van de Kerkhoff, une découverte terrible qui va être faite par quelqu'un en pleine ville, sur un trottoir.
Alors c'est le cantonnier du village qui découvre un pied qui dépasse d'un tas de sable et donc il gratte un peu et effectivement il se retrouve face à un corps de femme qui était sur le bord de la route, donc sous ce tas de sable, et donc l'examen du corps montre que c'est une dame très soignée, qui a été étranglée.
Elle a
avec
du vernis
un
à ongles, bon, elle a des vêtements, elle est nue, elle n'a pas de vêtements, je crois.
Elle n'a pas de vêtements, elle est dévêtue, mais on sait très vite qu'elle a été étranglée avec un bas de soie de couleur nègre. Donc le détail est important. Oui. Enfin, à l'époque, très peu de personnes avaient encore des bas de soie. Hein. On est juste après la guerre, d'accord. Période de disette. Ouais. Et donc, on ne sait pas qui est cette personne au début.
Mais on va faire un rapprochement avec un signalement, hein, comme on dit, en octobre précédent, je crois. Hein, on avait signalé la disparition d'une femme. Alors, je mets mes lunettes pour lire son nom parce que elle a un nom très long. Hein. Elle s'appelle Marie, mais tout le monde l'appelle Moussia. On va vous dire pourquoi dans un instant. Marie Moussia Sauti de Chalon, c'est la fille d'un conseiller maître de la Cour des comptes. C'est une femme qui est mariée, qui a 2 enfants, qui est d'origine russe, et d'où Moussia, je crois. Hein,
voilà, Moussia, c'est le diminutif de Marie en russe. Sa maman s'appelant Marie, effectivement. Ouais. On l'appelle communément Moussia. Et Moussia, donc, qui est une mère de famille sans histoire, a disparu au mois d'octobre. En fait, cette dame s'est mise en tête de traverser l'Europe pour aller dire, pour aller saluer des amis à Amsterdam. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Europe est vraiment encore à feu et à sang. Pour pouvoir voyager, elle a mis un uniforme. Elle est partie avec des troupes américaines et canadiennes.
Oui, parce qu'évidemment, les voies de chemin de fer ont été bombardées. Alors, il faut dire aussi que cette famille habite Alger, en fait. Hein. Guillaume, son mari et elle habitent Alger. Son mari a participé au débarquement en Provence. Elle se trouve donc là, dans le Nord, pour quelques jours encore, avant de repartir, après-guerre, donc vivre en Algérie. Mais avant, elle veut aller voir ses fameux amis à Groningue, en Hollande. Et elle part dans les circonstances que vous venez de rappeler, avec un faux ordre de mission, quand même. Hein, bon, un uniforme qui n'est pas à elle, qui ne correspond à rien. Hein, je sais pas, c'est des uniformes de femmes de l'armée. Enfin bon. Et elle va arriver à Groningue. On le sait parce que moi, ce qui m'a étonné dans cette affaire que vous racontez, c'est que les enquêtes, c'était possible. Hein. Les policiers, ils ont fait du très bon boulot.
Alors, ils ont fait du très bon boulot, mais les pauvres, ils ont dû effectivement suer sang et eau, parce que cette Europe, elle ressemble un peu à rien, quoi, puisque vous dites, il y a plus de communication possible.
Les civils n'ont pas le droit de passer les frontières. Enfin, et en même temps, eux, ils vont retrouver les amis qu'elle devait aller voir. Ils vont confirmer qu'elle les a bien vus. Elle est repartie. Elle a même envoyé, je crois, une carte postale qui est arrivée. Hein, et on va retrouver, alors, c'est toujours la même chose, le dernier endroit où on a vu cette femme vivante, c'est à Bruxelles.
Alors à Bruxelles, dans un palace, le Palace Hotel, hein, qui a été réquisitionné en fait. Et on sait qu'elle a passé, la nuit précédant sa disparition dans cet hôtel. Et très vite, les recherches s'orientent sur son voisin de chambre, hein, puisque son voisin de chambre, qu'on vient d'interpeller en Allemagne parce qu'il est soupçonné d'escroquerie, qui est un gars un petit peu ombrageux. Ah oui. Effectivement, on en reparle par la suite, parce que c'est un peu de l'histoire.
Il se présente comme un comte. Hein,
Alors, il s'est présenté donc à Moussia Sotichalon comme un capitaine, un médecin, comte Vernier de Miromont. Donc, il arbore la Légion d'honneur, la Croix de guerre. Elle a aucune raison de se méfier de ce monsieur qui est assez bel homme, qui pose bien, qui est assez obséquieux aussi.
Mais les enquêteurs vont se renseigner un peu sur cet homme. Il a été condamné pour escroquerie en Allemagne. Enfin, c'est un voleur. Il n'est pas médecin, évidemment.
Il n'est pas médecin. Il n'est pas comte non plus. D'ailleurs, il est.
Voilà. Et on comprend ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que elle est bloquée à Bruxelles. Il n'y a toujours pas de train pour rentrer dans le nord de la France. On se dit, il est rentré avec elle, il lui a proposé de la ramener chez lui, et puis il lui a fait son affaire, quoi.
Voilà. Mais c'est ce qu'on pense. Effectivement, on pense que lui, étant motorisé, a pu proposer à Moussia Sotichalon de la prendre et de la déposer à Paris, puisque, en fait, elle a été retrouvée à Manières. C'est une des routes qui mène vers Paris. Voilà. Parce que l'autoroute, à l'époque, n'existait pas encore.
Ouais, voilà. Et puis alors, dans l'enquête, on va pas raconter toute l'histoire, elle est extrêmement complexe, mais, les enquêteurs français, pour ça que je trouve, il mérite un coup de chapeau parce que ils vont retrouver une fille d'Anvers que le faux comte et faux médecin, a poursuivi de ses assiduités et lui a offert des bijoux. Ah oui, mais les bijoux, ils appartiennent à la comtesse. On retrouve des vêtements, je crois, de la comtesse dans sa voiture. Il va finir par être arrêté en Allemagne, à Tübingen, et il va être donc en fait incarcéré. Et c'est là où à la fois dans ce qu'il va dire à la police et ce qu'il va se dire au cours de son procès, que on va sentir la possibilité d'une affaire beaucoup plus complexe, peut-être une affaire d'espionnage. Mais pourquoi ? C'est lui qui va donner une hypothèse, une explication. Il va dire, elle possédait des renseignements sur la bombe atomique et elle était tuée par un Mongol. Ah là là. Or, il avait un chauffeur mongol, hein, lui. Bon. On met des points de suspension, ça s'appelle du suspense, et on revient tout de suite après à vous pour la suite de cette histoire incroyable.
L'heure du crime sur RTL.
Avec Marie de Van de Kerkhoff et Marie Goodson, qui sont deux journalistes de La Voix du Nord, qui ont participé à l'élaboration de ce hors-série qui paraît aujourd'hui sur les grands faits divers de la région. On était en train de vous raconter une histoire qui est vraiment passionnante, parce que c'est du roman noir, c'est du roman d'espionnage. Alors, pour les détails, je renvoie vraiment tout le monde à votre hors-série, Marie Van de Kerkhoff, mais on peut pas laisser les gens comme ça. Donc, il faut quand même donner encore quelques petites billes. Alors, on a arrêté un type, on va s'apercevoir qu'en fait, il est belge, qui s'appelle Léon, hein, le comte s'appelle Léon Meurant, il est pas du tout noble, c'est un escroc connu, un petit voleur connu, multirécidiviste, etc. Mais il a quand même un personnage et une aura assez incroyable.
Alors c'est un personnage vraiment haut en couleur. Il est belge, il est soudeur et il se fait passer pour un médecin médecin. Et il donne le change auprès des infirmières, etc. Ouais. Mais surtout, ce monsieur n'est pas que mystificateur. Il a vraiment des faits d'armes derrière lui. Par exemple, c'est un gars qui a réussi à s'évader du camp de la mort de Buchenwald.
Voilà, il avait été condamné par les Allemands à Buchenwald. Il a réussi à s'évader, ce qui est quand même rarissime. Quand les troupes alliées vont arriver à Nuremberg, c'est lui qui donne les clés de la... Les clés de la ville. Donc on se dit, c'est quand même peut-être aussi, lui, un vrai agent secret, pour le coup. Hein,
voilà, et effectivement, sa thèse, à l'époque, personne ne la croit. Parce que lui fait valoir que Moussia Sotichalon était un agent double, en fait, et qu'elle détenait effectivement des secrets sur la bombe atomique. Personne ne le croit, après deux instructions bâclées, après un procès qui a lieu à Amiens, dont on se demande pourquoi il a été délocalisé. Il y a un tas d'inconnus dans cette affaire. Quand
il
même
va réussir à s'échapper du couloir des condamnés à mort, il va être gracié, enfin bon, une histoire incroyable. Et on va s'apercevoir...
Alors on va s'apercevoir très 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 récemment, j'allais dire, grâce au témoignage de la fille de Moussia que j'ai eu au téléphone, que peut-être il y avait un fond de vrai dans ce que disait Léon Meurant.
Peut-être il y a eu erreur sur la personne, parce que la sœur de cette comtesse était, et là on en est sûr, un agent double au service de l'Allemagne d'un côté et au service des Britanniques de l'autre. Voilà. Bon. Alors, point de suspension. Je suis désolé, hein, si ça vous frustre un peu, faut vous procurer le hors-série. Et on va terminer avec Marie Goodson, avec une affaire. Tous les faits divers sont vraiment terribles aussi, bien sûr. C'est une femme médecin admirable qui a été tuée pour une poignée d'argent par un jeune homme de 20 ans qui voulait lui voler son sac, quoi. Alors cette femme, on l'appelait le toubib des pauvres à Lille,
ça,
en fait.
Ouais. Hein, elle était médecin généraliste à Lille, dans le quartier de Saint-Maurice-des-Champs. Donc elle s'appelle Odile Vermèche, et elle était connue pour donner consacrer pas mal de temps à ses patients les plus désœuvrés, qu'ils soient drogués, alcooliques ou en grande difficulté sociale.
Ouais. Donc une femme qui a le cœur sur la main, qui avait un petit garçon, hein, je crois,
à l'époque. Un petit garçon de 11 ans à l'époque, donc en 1991.
Ouais, elle était divorcée, son mari était médecin également, d'ailleurs, pas loin de chez elle. Et alors, sa disparition va être signalée par des amis, hein, je crois.
C'est ça, parce que ça se passe un week-end.
À quelques jours de Noël.
C'est ça, le 20 décembre. Et donc c'est le fils qui le lendemain matin, pensant que sa mère était rentrée tard le soir de visite à domicile, se rend compte qu'elle n'est pas là, donc il prévient les amis de sa mère, qui préviennent à leur tour le commissariat, et puis finalement il y a un appel à témoins qui est lancé à la radio.
Oui, par les proches, hein, parce que évidemment la police tout de suite ne prend pas au sérieux cette inquiétude des proches.
Voilà, Odile Vermèche a 42 ans, elle est adulte, elle est peut-être partie, elle a peut-être eu un problème.
Et puis alors il y a un rebondissement assez rapide, et ça, les enquêteurs nous le disent souvent, hein, il faut de la chance dans une enquête. Là, la chance, c'est un monsieur qui va aller directement au commissariat.
C'est ça, donc c'est un certain Patrick qui entend cet appel à témoins à la radio et qui décide d'aller au commissariat expliquer qu'un de ses amis lui a demandé de lui servir d'alibi pour ce fameux vendredi après-midi, en lui disant uniquement qu'il a fait une connerie avec un médecin.
Voilà, donc, si on me demande, j'étais avec toi vendredi soir. Et quand il entend l'appel dont vous venez de parler, cet homme, il fait le rapprochement, quoi.
Hein, oui.
En gros. Alors là, on ne dit pas on a tué un médecin, on dit un médecin a disparu. Et là, la police prend les choses évidemment au sérieux à partir de là.
En tout cas, elle recherche parmi la liste des patients d'Odile Vermeche qu'elle avait rencontré cet après-midi-là, ce fameux individu. Donc elle le trouve, elle décide d'aller à son domicile et elle l'interpelle.
C'est-à-dire, pardonnez-moi de vous interrompre, ça veut dire que l'homme dont a parlé, celui qui est allé au commissariat, il se trouve qu'il était sur la liste des visites du médecin pour ce jour-là, quoi.
C'est ça. Tout à fait, ouais. Donc lui, il avait appelé quelques heures avant, dans la même journée, en disant qu'il avait des maux de tête et des envies de vomir. Et donc, il avait déjà appelé dans les pages jaunes, au hasard, deux autres médecins qui avaient décliné sa demande.
Donc il y a eu un... Oui, elles sont... ces deux autres femmes médecins ont vraiment échappé à la mort sans le savoir, ouais. Sur le moment. Ouais. Et il avait choisi des femmes parce que c'était plus facile à maîtriser qu'un homme, hein, c'est ça?
Tout à fait, oui. Ouais. Et donc, il se disait qu'un médecin qui rend des visites à domicile a certainement de l'argent sur lui.
Alors, on continuera ensemble tout à l'heure à donner un certain nombre de détails sur l'affaire. Mais on va entendre un document incroyable, un rebondissement absolument énorme. C'est-à-dire que la police va évidemment au domicile pour arrêter ce jeune homme de 20 ans et l'emmène au commissariat. Et puis il y a deux journalistes, dont l'un de La Voix du Nord, qu'on connaît bien ici, qui s'appelle Patrick Yankelevitch, qui est l'actuel rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord. Bah, il faisait des faits divers hein, pour La Voix du Nord à l'époque. Alors, les vrais faits diversiers savent de quoi je veux parler. Ils se transforment un petit peu aussi en chien de chasse parfois. Ils vont voir ce qui se passe, ils suivent un peu les policiers. Et quand les policiers s'en vont, ils se disent... La voiture du médecin, parce qu'on a parlé de la voiture du médecin, une Volvo assez remarquable. Je dis, et si la voiture du médecin était dans le coin? Et, eh bien, elle était dans le coin. Et ils s'approchent de cette voiture et ils vont faire une découverte énorme. La suite, c'est Patrick Yankelevitch qui va vous le raconter. Il est au micro de Margot Agnès. Il pouvait pas être avec nous en direct à cette heure-ci. Alors, écoutez, il raconte à Margot Agnès comment, avec son confrère de Nord-Éclair, Dominique Camus, ils ont découvert le corps de la femme médecin.
On s'est dit que probablement, si ce gars avait effectivement fait un mauvais coup, il avait dû garder la voiture. Et on s'est mis à chercher la voiture, sachant que là encore, les policiers n'étaient pas pressés, visiblement, de la chercher. Donc on s'est dit, nous, on va la chercher. Et on a fini par trouver la voiture non loin de l'endroit où habitait ce jeune homme qui avait été arrêté, deux rues plus loin en fait. Hein. On est arrivé, on a vu cette voiture, et avec une bande de jeunes qui étaient autour et qui étaient en train d'essayer de la voler quand on est arrivé d'ailleurs, pour la petite histoire. On a pris une lampe torche pour inspecter la voiture et on s'est aperçu que la trappe à ski qui donnait dans le coffre était ouverte. On a braqué le faisceau de la lampe. Et là, l'horreur, quoi. On a vu qu'il y avait le corps de cette femme médecin dans le coffre de la voiture. Et la voiture était vraiment à 150 mètres de son domicile, hein, dans une petite rue derrière. On n'a eu aucun mal à la trouver, quoi. On a mis un quart d'heure, à peine.
Et là, vous avez appelé les policiers?
Alors là, on a appelé les policiers, mais bon, c'était encore une fois, ça devait être un week-end assez particulier. On a appelé les policiers qu'on connaissait. Moi, j'ai appelé un policier. Je lui ai dit, écoute, on a retrouvé le corps du médecin. Et le policier m'a répondu, oui, c'est ça. Si je te crois pas, tu m'en raconteras une autre. Elle m'a raccroché au nez. Je l'ai rappelé une deuxième fois. Il m'a refait le même coup. Il m'a dit, bon, écoute, c'est bon. J'ai pas eu le temps de parler. Et donc, j'ai appelé, en fait, un ami commissaire qui était, lui, dans une soirée familiale. Je lui ai dit, écoute, on a retrouvé la victime. Elle est là. Il y a une bande qui tourne autour de la voiture. Il faudrait quand même que vous veniez. Et lui, il nous a pris au sérieux, effectivement. Il a envoyé tout de suite des hommes. Ils sont arrivés avec une dépanneuse. Voilà. Et dans le recueil qu'on sort dans les 13 affaires criminelles, il y a une photo où on nous voit effectivement autour de la voiture avec les dépanneurs et le commissaire en question.
Ça vous est déjà arrivé une autre affaire de ce genre comme ça? Vous étiez un petit peu à la place des policiers quand même.
Je pense qu'il y a des universitaires qui travaillent encore comme ça. Il y en a d'autres qui travaillaient comme ça avant nous. Hein. On a rien inventé. On était un peu des rouletabilles, hein, pour les plus anciens qui connaissent. Sur des enquêtes policières, on allait vraiment sur le terrain et il nous est arrivé de trouver des choses comme ça. Moi, j'ai trouvé une fois l'arme d'un crime, mais jamais, en tout cas, jamais un cadavre.
Voilà, il y a le témoignage de Patrick Yankelevitch, donc l'actuel rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord. Encore un mot sur cette affaire, Marie Goodson. Le procès va avoir lieu en 1996. L'auteur s'appelle Johan de Bézieux. Il va être condamné très lourdement.
Oui, à la réclusion perpétuelle, la réclusion criminelle à perpétuité avec 18 années de sûreté.
Mmh. Voilà, et donc sans circonstances atténuantes. Mmh. Merci beaucoup. Je renvoie tout le monde. Je suis désolé, hein, ça va très vite parce qu'on voulait parler d'un maximum d'histoires. Il y en a 13 hein, au total quand même. Donc ce hors-série, 13 affaires criminelles dans le Nord-Pas-de-Calais de 1910 à nos jours sort aujourd'hui avec aussi une interview, où je dis ça pour ceux qui aiment bien le polar, d'un auteur, d'un enfant du pays, hein, si j'ose dire. Voilà, Franck Tillez, le serial thriller qui passe aux aveux pour La Voix du Nord. Merci beaucoup Marie-Vendée-Kerkhoff. Merci Marie Goodson. Et demain, je vous en parle dans un instant parce que là on va déjà retrouver Flavie Flamand dans un premier temps.